Salut à toi, jeune ou moins jeune sur Radio Panique. J'espère que tu passes le mercredi après-midi le plus cool qui soit entre sport, devoirs, télé et musique. Aujourd'hui, c'est l'émission des jeunes radioactifs de 17 à 18 heures. C'est la première émission de la saison. Au micro, Aurore.
Salut tout le monde.
Et moi-même, Fabrice.
Fabrice, mais jeunes radioactifs, c'est quoi ?
C'est une émission participative par excellence.
Et on parle de quoi ici ?
De sujets sérieux comme l'école, le travail, le stage, la famille, mais des sujets qui nous parlent et nous concernent. Car on va aussi parler de nos droits et de nos devoirs. On vous promet, on ne sera pas casse-pieds.
Mais à part nous, qui participe aux jeunes radioactifs ?
Les jeunes, petits et grands.
Et pour qui ?
Les jeunes encore, grands et petits, malins ou pas, bruxellois ou non, on accepte quand même des gens comme toi.
Qui d'autre pour faire notre belle émission ?
Radio Panique, bien sûr, sur 105.4 et les associations du secteur de la jeunesse, comme InfoJeune Laeken, que nous remercions au passage. Dans tous les cas, toi qui nous écoutes, si tu veux nous aider dans notre projet, contacte Aurore à InfoJeune Laeken au 02 421 71 30.
Fabrice, comment va se passer notre nouvelle saison ?
Eh bien, Aurore, on fait une émission par mois. On fait presque toujours du direct, tous les quatrièmes mercredis du mois. On aura nos experts d'InfoJeune Laeken et nos invités, bien sûr, pour nous éclairer. On fera parfois des micro-trottoirs ou des reportages. On verra comment on se débrouille.
Et pour aujourd'hui, on se met quoi sous la dent ?
Aujourd'hui, notre sujet, c'est à la découverte des activités hors des bancs de l'école. Il s'agit d'une émission consacrée aux activités extrascolaires. Nous allons explorer l'importance de ces activités dans le développement des jeunes et découvrir ce que les différents acteurs du secteur ont à nous dire. Restez à l'écoute pour des informations précieuses. On a avec nous Stéphane de l'école des devoirs, les amis de l'étincelle, Carlos d'Itinéraire et Marine Calandre, attachée de presse au Patro. Bonjour aux invités.
Bonjour.
On revient après une chanson de l'humoriste Guillaume, Petite Pause.
Bon allez, fini de rigoler, mes fluos sont triés, mon bureau est rangé, à partir de maintenant je m'y mets vraiment.
Mais avant ça, je me ferai bien une petite pause.
Détendez-vous. Ciao, ciao, ciao. Envie de faire la fête?
Un blocus de plus et je sens que je vais rater. Je suis encore nulle part et c'est pareil chaque année. Je vais faire une petite pause sans trop me prendre la tête, en sachant que tout l'été, je ferai la fête.
Ich bin
Ah ben oui, Ich bin Affleck.
J'avais proposé Ich bin Laden aussi, mais ils n'ont pas rigolé.
Dis, c'est Guillaume, t'en es où, toi, t'as déjà commencé ? Oui ? Ah, parce que moi, j'ai encore rien foutu. Enfin, quand je dis rien foutu, non. J'ai quand même fait la paix !
Je me ferais bien une petite série, juste un épisode. Un chapitre, un épisode, c'est une bonne méthode.
Je m'en fous déjà.
j'ai mal à la tête. Ça sort la seconde session. Bon ben c'est officiel, hein. Je suis dans la merde.
C'était Guillaume avec Petite Pause. Toujours sur Radio Panique pour notre émission à la découverte des activités hors des bancs de l'école.
Pour commencer, Fabrice, peux-tu nous dire ce qu'on entend vraiment par activité extrascolaire ?
Oui, Aurore, donc il s'agit de toutes les activités auxquelles les élèves participent en dehors des heures de classe. Cela peut inclure des cours de musique, des clubs sportifs, des ateliers artistiques et bien plus encore. Dans cette première partie d'émission, chaque personne ici présente va nous présenter son organisation dans les grandes lignes. Carlos, tu nous viens donc de l'AMO Itinéraire. Peux-tu te présenter, nous expliquer tes missions là-bas ?
Oui, bonjour Fabrice.
Bonjour Carlos.
Voilà mes itinéraires AMO. Donc, c'est un service d'action au milieu ouvert. Mais nous avons deux missions dans le service, qui c'est la prévention éducative et la prévention sociale. La toute première, prévention éducative, donc cela signifie qu'on accompagne, on soutient avec une écoute et aussi autour des entretiens les difficultés d'un jeune ou de sa famille. Et puis ça consiste vraiment dans un accompagnement social et éducatif pour pouvoir le soutenir et sortir de ses difficultés. Donc c'est un accompagnement gratuit. Donc les jeunes, ils viennent d'une manière volontaire, c'est-à-dire que l'aide qu'on apporte, elle n'est pas contraignante. Et donc le jeune, il vient en toute liberté, et puis il nous fait une demande, et nous, on travaille à la demande du jeune. Et puis voilà, on va établir et structurer un accompagnement. Ça s'est fait de manière tout à fait volontaire. L'autre mission, donc, c'est la prévention sociale. Et donc, cela signifie aussi qu'on construit des projets avec d'autres travailleurs sociaux à partir des constats, à partir de difficultés aussi qu'ils rencontrent les jeunes dans la vie de tous les jours. Et puis, on essaye de répondre à travers différents projets, aussi à travers le travail social de rue. Et puis, de différents projets, ça peut être aussi de... dans l'aspect culturel, ça peut être dans l'aspect sportif, ça peut être du théâtre, ça, voilà, de l'escalade. Et donc, voilà, ce sont des projets justement pour répondre d'une manière préventive à toutes ces difficultés-là à partir des constats individuels et apporter une réponse globale.
D'accord, merci à toi. On y voit déjà un peu plus clair sur ton travail. Stéphane, toi, tu travailles pour l'école des devoirs, les amis de l'étincelle, c'est bien ça ?
Oui, bonjour Fabrice.
Bonjour voilà. Stéphane, et quelles sont donc tes missions ?
Donc, nous sommes situés donc, dans le quartier Clémenceau à Anderlecht, un quartier qui est quand même avec une population assez précarisée. Et donc, en fait, on a essayé d'offrir des services qui correspondent aux attentes des personnes, notamment une école de devoirs pour les primaires, avec environ 80 enfants inscrits, une école de devoirs pour les secondaires, avec plus ou moins 60, des animations pour les primaires, les secondaires, des cours d'alphabétisation pour les adultes, des permanences sociales et des projets communautaires. Et le but, c'est vraiment de faire développer le développement intellectuel, le développement créatif, le développement social et participatif.
D'accord, merci à toi Stéphane. Et donc Marine, est-ce que tu peux nous expliquer tes missions au sein du PATRO ?
Oui, donc moi je travaille pour la Fédération Nationale des PATROs. Alors le PATRO, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement de jeunesse reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est pour les jeunes à partir de 4 ans et fait par les jeunes. Donc ce sont des animateurs, des animatrices de 16 à 35 ans qui animent les plus petits avec des bénévoles. Ils sont donc tous formés évidemment. Et le PATRO, il propose des animations de qualité adaptées aux besoins pour chaque âge. Ça se déroule chaque week-end dans son PATRO local. Il y a aussi un grand camp de 10 jours pendant l'été. Et au niveau de la pédagogie, c'est vraiment très familial. On essaye de partager des bons moments avec toutes les générations confondues et on cherche à induire des valeurs comme la vie en groupe, la prise de responsabilité et la solidarité.
Ok, merci à toi Marine. On revient après Grand Corps Malade qui va nous chanter Éducation nationale.
Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay. Ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. Mon école, elle est mignonne, même si les murs sont pas tout neufs. Dans chaque salle, il y a plein de bruit, moi dans ma classe, on est 29. Il n'y a pas beaucoup d'élèves modèles, puis on est un peu dissipés. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Moi en maths, je suis pas terrible, mais c'est pas pire qu'en dictée. Ce que je préfère, c'est 16 heures, je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant ma maîtresse, je l'aime bien, elle peut être dure, mais elle est patiente. Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est pas chiante. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties. Mais on a que 2 quarts par an qui sont prêtés par la mairie. Je crois que mon école, elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique. On a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. À la télé, j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS. Nous, on a que des tapis, des cerceaux et la détresse de nos maîtresses. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne ne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, faut rajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aient d'autres devoirs, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à 2 balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants? L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux. Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho. L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau. Il n'y a pas d'éducation nationale, il n'y a que des moyens de survie locaux. Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution. Mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir, car attention, la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère. Et l'égalité des chances un concept de ministère. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay. Ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. C'est pas de ma faute à moi si j'ai moins de chance d'avoir le bac. C'est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac.
C'était Grand Corps Malade avec Éducation Nationale. Nous sommes toujours sur Radio Panique pour notre émission à la découverte des activités hors des bancs de l'école. Dans cette seconde partie d'émission, nous allons te fournir autant d'informations que possible sur les écoles de devoir. Stéphane, peux-tu nous expliquer en quoi consiste une école de devoirs et comment elle aide les élèves dans leur parcours scolaire?
Alors une école de devoirs, c'est un lieu d'abord d'accueil. Donc on se trouve avec des populations où il y a beaucoup d'enfants et donc on accueille. Ça c'est la première chose que l'on veut faire, un lieu où on se sent bien. Et donc en fait, à partir de cet accueil, qu'est-ce qu'on développe? On essaie de développer un accompagnement scolaire pour essayer de faire les devoirs avec eux, pour qu'ils essaient de comprendre, mais surtout pour leur donner une méthodologie pour travailler, pour qu'ils arrivent à être plus autonomes avec le temps. Retrouver la confiance nous semble une priorité, la confiance en eux, la confiance dans la capacité de pouvoir affronter des études comme n'importe quel jeune, parce que souvent, il y en a beaucoup qui doutent de leur capacité. Et donc, ça sert à ça. Et alors, bien sûr, c'est proposer des animations, donc il y a tout le côté scolaire où on fait les devoirs, les leçons, mais il y a aussi le côté animation, qui est aussi essentiel. Et donc, après chaque fois, après les devoirs, les enfants ont toujours l'occasion d'aller avoir un moment d'animation. Donc, des animateurs sont prévus pour animer, soit pour des œuvres créatives, soit pour du spectacle, soit des jeux, etc. Et donc, c'est apprendre en s'amusant. Parce que c'est la priorité aussi dans une école de devoirs, c'est apprendre en s'amusant.
D'accord, merci. Et quelles sont les principales raisons pour lesquelles les élèves fréquentent ton école de devoir et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent généralement?
Alors, en général, nous, on accueille des enfants de 6 à 18 ans. Donc, en fait, il y a une espèce de climat de famille. Donc, en fait, les enfants connaissent le lieu. Ce n'est pas un lieu inconnu. Il y a déjà eu leurs grands frères, leurs cousins. Et donc, ça, c'est important, un lieu un peu familial comme ça. C'est parfois leur deuxième maison. C'est comme ça qu'ils nous désignent parfois. Et donc, c'est important. Il y a vraiment un réel besoin au niveau des études. On a des enfants quand même qui n'ont pas des parents qui ont été toujours très instruits. Et donc, les enfants sont souvent déroutés face aux études, ne savent pas comment procéder. Et les parents, surtout, sont déroutés. Donc, c'est un petit peu un travail de complémentarité avec les parents en disant on se soutient mutuellement. Et donc, nous développons aussi tout un travail avec les parents aussi. Parce que travailler juste avec les enfants sans avoir les parents, c'est pas très productif. Et donc, les problèmes, ils sont nombreux en tout cas. Ça, c'est vraiment au niveau scolaire, on arrive à des situations où il y a des enfants qui ont des gros échecs. Alors, on essaie de remonter la pente petit à petit, jour après jour. Ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Bien sûr. Si c'était si simple, malheureusement. Comment vous choisissez les enseignants et les bénévoles qui travaillent au sein de l'école de devoir et quelles compétences sont essentielles pour ce rôle?
Alors, il y a plusieurs compétences qu'il faudra avoir. Bon, c'est au niveau intellectuel, bien sûr, il y a des choses à savoir au niveau des contenus, bien sûr, des matières. Oui. Mais alors, au-delà de ça, on demande aux bénévoles, on essaie de voir avec des bénévoles s'ils ont le même esprit que nous. Donc, est-ce qu'ils sont accueillants avec les enfants? Parce que si c'est pour enguirlander les enfants inutilement parce qu'ils ne savent pas les matières, ça ne vaut pas la peine. Donc nous, on essaie de cultiver un esprit de confiance. C'est vraiment important, ça. Et donc si le bénévole ne correspond pas à ça, on ne va pas continuer avec lui. Ce n'est pas possible. Et toute l'équipe, on essaie de se former pour être justement plus empathique, plus dans la compréhension de l'enfant avec ses difficultés.
D'accord, merci. Et est-ce que, par exemple, tu aurais des exemples de réussite, de progrès notables chez les élèves qui ont bénéficié de l'aide de ton école?
En toute modestie, il y a quand même des grands jeunes qui ont fait un petit peu, qui ont été en primaire à l'école de devoir, qui ont commencé les secondaires, et à partir de la troisième, quatrième, ils deviennent autonomes. Et donc, ils n'ont plus besoin de nos services. Ils peuvent fonctionner tout seuls, mais eux, parfois, reviennent pour aider les plus jeunes. Et ça, c'est quelque part une réussite parce qu'on se dit, allez, ils ont envie aussi de donner quelque chose pour faire réussir les plus jeunes.
Et du coup, il y a une collaboration qui s'installe. En parlant de collaboration avec les écoles ou d'autres institutions éducatives, est-ce qu'il y a un soutien complémentaire qui peut s'installer grâce à votre collaboration?
Oui, alors, la première collaboration que nous avons, c'est avec les parents. Avec les écoles, c'est parfois plus difficile parce que nos horaires ne correspondent pas toujours. C'est pas facile de rencontrer les professeurs. Mais par contre, nous avons élaboré un carnet de bord. Donc, c'est un outil qui permet vraiment de communiquer toujours avec les écoles. Tel enfant n'a pas pu faire son devoir parce qu'il n'a pas compris la matière. Je crois qu'il serait nécessaire de revoir ça. Parfois, l'école nous envoie un message en disant « Est-ce que vous pouvez insister là-dessus ? Attention !» Et donc, on se tient au courant par ce biais-là. Mais des rencontres, c'est très rare parce que c'est difficile. Les horaires ne correspondent pas.
Et au niveau des activités ou de programmes annexes, en plus de l'aide aux devoirs, pour encourager le développement personnel des élèves, y a des choses dont tu peux nous parler?
On essaie de développer beaucoup de projets, donc un petit peu artistiques. Donc il y a souvent des spectacles qui sont organisés. On participe souvent chaque année au Festival Mimouna. Donc c'est un festival de théâtre amateur qui a lieu à Skarbek. Et donc il y a différentes choses. Avec les adolescents, on organise chaque année un voyage en Irlande, en Espagne, en Grèce et des choses comme ça. Pas simplement dans le but d'aller faire du jet ski ou bien des choses comme ça. Non, d'aller visiter des lieux bien précis. Le dernier voyage, c'était en Espagne. On a été visiter Cordoue, une ville où, au Moyen-Âge, il y avait une multiculturalité au niveau des religions. Et c'était formidable. Et on a découvert ça avec les monuments, avec les différents musées qui sont là. Donc il y a toujours un côté pédagogique dans la visite que l'on fait pour un voyage. Il y a des camps aussi qui sont organisés, qui permettent de voir l'enfant sous un autre regard aussi.
Oui. Au niveau de l'efficacité, des méthodes et du suivi de leur progression de ces jeunes, tu as une manière de pouvoir observer ça?
Mais, bon, évidemment, le baromètre, c'est le bulletin et la réussite scolaire. Mais au-delà de ça, parce que bon, parfois, c'est vrai que le bulletin, ça révèle certaines choses, mais ça ne révèle pas tout. On voit très bien qu'il y a des enfants qui progressent. Ça ne correspond pas toujours aux critères de l'école, mais il y a des enfants qui progressent, qui évoluent. Mais ça, on sait le voir tous les jours, justement, en ayant un contact régulier. Parce que nous, on demande aux enfants d'être réguliers pour justement avoir un suivi complet avec eux. Et donc, voilà. Mais en général, je crois qu'on a quand même de belles réussites. On a des enfants qui réussissent en général. On a très peu d'échecs, d'enfants qui doublent. Et donc, on essaye de continuer dans cette voie-là, en tout cas. La confiance. Qu'ils gagnent la confiance en eux. Ça, c'est
je pense que c'est très important.
Oui, c'est la priorité.
Mm-hmm. Et au niveau des ressources disponibles dans l'école, notamment au niveau technologique, numérique et les matériaux éducatifs, qu'est-ce qui est possible à ton école de devoirs?
Alors, bon, pour les enfants, il y a deux ordinateurs qui sont à leur disposition pour chercher des informations. Souvent on les guide parce que sinon ça va on peut voir n'importe quoi sur internet hein, donc parfois donc il faut bien surveiller ça, mais donc il y a des ordinateurs qui sont à disposition pour justement chercher par exemple des réponses dans les matières, parce que par exemple on a 40 enfants à l'école de devoirs des secondaires, j'ai 3 bénévoles, je ne sais pas aider tous les enfants, alors regarde un peu, essaie de trouver l'information sur internet, essaie de chercher pour voir est-ce que tu ne pourrais pas comprendre tes mathématiques à travers différents sites. Si ça ne va pas, reviens vers nous et on t'aidera. Donc ça, c'est possible. Et au niveau de toutes les activités, ben on a du matériel, on essaie d'avoir du matériel varié qui permet d'avoir la créativité artistique, mais aussi du matériel sportif, des ballons, un peu de tout, quoi, pour vraiment développer toutes les intelligences de l'enfant, en fait.
Plein de choses possibles, en
oui,
fait.
Oui, tout à fait.
Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de l'importance aussi de parler aux parents pour qu'ils les accompagnent dans le processus éducatif de l'école. Justement, comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer là-dedans? De quelle manière ils peuvent s'impliquer pour aider l'enfant?
Mais on a essayé d'avoir des... D'abord, ce sont des voisins. Donc, en fait, les enfants, ils habitent à
le quartier,
la maison même à côté, au-dessus, etc. Donc, en fait, on a des contacts assez réguliers avec les parents. Les parents déposent leurs enfants, on discute avec eux. Il y a toujours quelqu'un qui fait l'accueil chez nous. Donc, il y a toujours une personne qui se trouve devant la porte pour accueillir justement les parents, discuter, voir un peu ce qui ne va pas, etc. Et donc, on essaie d'entretenir ça un maximum. Et moi, je réserve toujours ma matinée pour pouvoir recevoir les parents. Donc, ceux qui veulent me voir... Ils ont entre 10h et midi, je suis disponible, tous les jours de la semaine.
D'accord. À condition, bien entendu, qu'ils sont quand même là pour ce suivi régulièrement. Ils soutiennent, ça dépend, je suppose.
Oui, ça dépend des parents.
Des difficultés aussi.
Oui. Et puis, il y a des parents qui sont moins impliqués, qui ne comprennent pas tellement l'enjeu. Il y a des populations, ils n'ont pas été bercés dans l'enseignement et ils ne savent pas ce que c'est. Et donc... Oui, s'il ne vient pas à l'école de voix, ce n'est pas grave, monsieur. Mais il a beaucoup de lacunes, monsieur. Donc, il faudrait qu'il vienne régulièrement.
D'accord, merci. Et quels sont les défis auxquels ton école de devoir est confrontée? Comment envisages-tu de les surmonter à l'avenir pour continuer à soutenir les élèves de manière efficace?
Alors, nous avons des locaux, mais nous avons des petits locaux. Donc, ils sont très bien, mais peut-être pas assez grands pour le public que l'on accueille, parce qu'il y a de plus en plus de projets qui se développent. Et c'est vrai que le défi, c'est de chercher des locaux. Au niveau des subsides, c'est aussi c'est pas toujours évident parce que les subsides, c'est de plus en plus exigeant. Et donc, ça demande un travail vraiment très important pour répondre à tous ces subsides parce que chaque fois, c'est de plus en plus pointilleux au niveau des questions, au niveau des justificatifs, etc. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça demande beaucoup de travail pour ça.
Merci pour toutes ces réponses, Stéphane. On va écouter Trio avec Récréation.
de l'impunité, on va faire des bons élèves. Les enseignants seront armés, les classes en béton armées. Quant à la cour de récré conçue en fil barbelé. Eh ouais, enfin une nouvelle éducation. Travail, famille, patrie, et éduquons la nation. Vos gosses sont des junkies, qu'on les jette en prison. Ce sont de malpolis, qu'ont des parents indécis. Eh ouais, on prend des décisions. Les gens d'en bas sont mauvais en termes d'éducation, puisqu'ils gèrent mal leur mouflet, puisqu'ils tiennent mal leur maison. On va leur sucrer les allocations. Fusillons les droits de l'enfance. On avait trop avancé dans notre si jolie France. Enfermons les nouveau-nés avant qu'ils se mettent à pleurer. Le calme c'est la santé, faut pas se laisser emmerder. Allez, fusillons les droits de l'enfance. Beaucoup de nos voisins en ont fait l'expérience. La prison fait du bien, ça remet dans le bon sens. Tu deviendras un adulte sans passer l'adolescence. Allez, fusillons les droits de l'enfance. Augmentons le temps de travail, diminuons les vacances. On va leur péter 20 chaînes de télévision. Ça va leur zapper leur envie de rébellion. Allez, fusillons les droits de l'enfance. Augmentons le temps de travail, diminuons les vacances. Faut que les parents bossent, faut que les parents bossent. Pendant que la police s'occupe de leurs gosses. Allez, fusillons notre jeunesse. Fini les feignants remplis d'allégresse. Fini les rêves parties, tout le monde de fitness. Le sport c'est la santé, les jeunes font que se drôler.
Allez, sortons le gouvernement. Impunité zéro pour notre président. Prison pour les ministres qui se sont augmentés. Pendant que la moitié du peuple se bat pour bouffer. Allez, sortons le gouvernement. Impunité zéro pour notre président. Il est sûrement plus coupable que la misère des enfants qu'il veut enfermer en bon dirigeant. Allez, sortons le gouvernement. Il faut avancer, on est intelligent. On va user les pavés, user les pavés, user les pavés. Et ils vont reculer, user les pavés, user les pavés, user les pavés. Et ils vont reculer, user les pavés, user les pavés, user les pavés. Et ils vont reculer.
C'était Trio avec Récréation. On est toujours sur Radio Panique 105.4 pour notre émission à la découverte des activités hors des bancs de l'école. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons te donner un maximum d'infos sur le Patro. Peux-tu nous expliquer en quoi consistent les activités principales du Patro et comment elles bénéficient aux jeunes participants, s'il te plaît, Marine?
Alors, le Patro, c'est des réunions locales le week-end où tout le monde va se retrouver pour faire des jeux et passer un bon moment tous ensemble. On cherche à ce que chaque jeune qui passe au Patro devienne un citoyen responsable, actif, critique et solidaire. Alors, ils apprennent à vivre au sein d'un groupe, ils s'ouvrent, ils font attention aux plus fragiles, que ce soit au niveau de la précarité, au handicap, mais aussi par rapport à la nature. Alors, on apprend à être responsable, on s'investit à sa mesure. Pour résumer, le Patro, c'est un espace où on a le droit à l'erreur, on peut expérimenter des choses, c'est une transmission de savoir et c'est une remise en question permanente.
Et comment le Patro promue-t-il les valeurs d'inclusion et de diversité au sein de ses activités?
Mais l'inclusion, elle passe par les activités qui s'organisent en mélangeant les sections, tout simplement. On va mélanger toutes les générations, on s'assure ainsi que tout le monde a accès au camp pour que personne ne soit mis sur le côté. Et donc, comme je le disais, l'ouverture à tous, c'est une évidence. Chacun est accueilli tel qu'il est. On a par exemple un Patro, on a accueilli une petite fille qui est sourde. Alors à son arrivée, elle a été préparée suffisamment à l'avance, elle a été discutée avec les parents pour qu'elle soit vraiment accueillie dans les meilleures conditions possibles. Et ces préparations, ce n'est pas juste pour elle, c'est pour l'ensemble du groupe, pour les animateurs aussi. Et notamment dans l'équipe, certains ont appris la langue des signes, par exemple.
D'accord. Et peux-tu nous partager quelques exemples de projets ou d'initiatives récentes menées par le Patro en faveur de la jeunesse?
Alors au niveau local, c'est via l'organisation d'animations chaque semaine et du camp qu'on a chaque été. Il y a aussi les régions qui organisent des jeux, des animations et des formations. Et au niveau fédéral, pour les 220 groupes locaux à travers toute la Belgique, on a pu soutenir les jeunes en octroyant des bourses pour aider les plus démunis à partir en camp notamment. On a aussi soutenu les groupes dans leur recherche d'endroits de camp, ce qui n'est pas toujours évident à faire, encore plus aujourd'hui. Et on a créé aussi des outils, notamment sur les VRAS. On organise des formations et des animations en version XXL. Et on a justement un événement qui arrivera bientôt, qui réunira 500 enfants de 9 à 12 ans. Ça s'appelle EPIC.
Et en termes de développement personnel, quels sont les avantages spécifiques que les jeunes tirent de leur participation au PATRO en général?
On dit souvent que le PATRO, comme d'autres mouvements ou d'autres associations de jeunesse, c'est une école de vie et c'est vraiment ça. On y apprend la solidarité, la vie en groupe, le partage, le respect de l'autre, l'ouverture et plein d'autres choses.
Okay, merci. Comment le PATRO collabore-t-il avec les écoles et d'autres organisations pour enrichir l'expérience éducative des jeunes?
Mais être partenaire d'une école, c'est aussi pouvoir développer un lien éducatif avec un acteur essentiel de sa commune ou de son quartier. Et au fond, on apprend des choses au PATRO, on apprend des choses à l'école. C'est juste une manière tout à fait différente. Pour le PATRO, c'est l'occasion de faire le lien entre les apprentissages et l'éducation formelle et pourquoi pas de créer des projets ensemble. On est tout à fait ouvert à ça. Et pour les écoles, être en lien avec un patro, c'est permettre aux élèves d'acquérir des compétences de savoir-être, de savoir-vivre en groupe, toutes des choses qui seront utiles aux enfants à l'école. Et les deux secteurs, l'enseignement et celui des mouvements de jeunesse, sont un objectif commun. Avant tout, c'est celui de former des citoyens responsables.
Et au niveau des défis, justement, en parlant de former des citoyens responsables, quels sont les défis auxquels le PATRO est confronté généralement dans le cadre de ses activités auprès des jeunes?
Dans l'organisation d'activités, rien. On a la chance d'avoir des jeunes qui sont vraiment très impliqués. C'est vraiment super. En revanche, on se rend compte que parfois, ils vivent des choses qui sont de plus en plus compliquées. Du coup, nos défis sont surtout en lien avec la santé mentale, le bien-être. On en parlait récemment dans l'actualité, mais l'EVRA, c'est un sujet de plus en plus marquant pour les jeunes. Donc, on essaye de leur donner des cartes de bien-être pour bien vivre tous ces aspects. On a notamment des podcasts qui vont bientôt sortir à ce sujet.
Et donc plus de difficultés, donc plus de personnes également qui doivent être là pour ces jeunes. Peux-tu nous parler des possibilités de bénévolat et d'engagement au sein du PATRO pour les jeunes adultes et les membres de la communauté?
C'est simple, sans bénévoles, le PATRO n'existerait pas. Sur les 22 000 membres que nous avons actuellement, 3600 sont des animateurs bénévoles. Donc voilà, si vous voulez vous investir là-dedans, n'hésitez pas à consulter notre site internet, donc lepatro.be, à nous contacter. On peut répondre à toutes vos questions et chaque année on recherche des animateurs par exemple, donc franchement pourquoi pas vous.
Ok, donc lepatro.be, n'oubliez pas. Comment le PATRO encourage-t-il la participation des jeunes à des actions bénévoles et à des projets citoyens dans leur communauté locale?
Bien, le PATRO, chaque PATRO local a ses propres moyens. L'engagement dans la communauté locale est quelque chose qu'on prône, mais ce n'est pas toujours possible pour tous les PATROs. Mais dans tous les cas, en proposant des animations chaque week-end, ils remplissent déjà des missions d'utilité publique. Et après, c'est en fonction des envies, des moyens. Certains s'investissent dans la vie de la commune via des actions d'entraide, de participation citoyenne. Et ce genre de choses.
Vous avez de futures aspirations et des projets pour soutenir la jeunesse et évoluer en tant qu'organisation?
Oui, tout à fait. On va continuer à organiser des activités, des formations de qualité. À l'avenir, on développe aussi l'internationalisation du mouvement. On se rend compte que les jeunes sont de plus en plus tournés vers le monde, vers l'Europe. Donc on a aussi des projets plus politiques via un plaidoyer qui va défendre les intérêts des jeunes aux prochaines élections. Et on va aussi organiser un grand rassemblement fédéral pour faire vivre une journée d'animation hors du temps, hors du commun pour tous ces jeunes.
Et est-ce que tu aurais des exemples de success stories de jeunes qui seraient passés par le PATRO auparavant?
On a pas mal d'anciens qui ont fait carrière dans l'enseignement, qui ont vraiment bien intégré les valeurs du PATRO dans leur profession, l'entraide, la façon d'expliquer, tout ça passe par le métier, je vais dire, d'animateur. Mmh. Donc qui sont vraiment drillés à ça. Et on a aussi d'anciens patronnés qui ont fait de la politique, d'autres qui sont devenus animateurs à la télé ou à la radio. Mais dans l'ensemble, il faut se dire que chaque patronné a sa propre success story et le passage au PATRO influence la vie de tous au final.
Merci beaucoup Marine. Donc n'oubliez pas lepatro.be si vous voulez les rejoindre en tant que bénévole. On va écouter Black M avec Madame Bavochko.
son est une dédicace à Madame Pavoshko. Vous vous souvenez? Monsieur Diallo.
Aïe Madame Pavoshko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent Madame Pavoshko. Oui, 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 oui Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspi Madame Pavoshko. C'est pour mes gars sous weed Madame Pavoshko. Si vous voulez, on se tweet Madame Pavoshko.
Et ça fait
sans la tête sous l'eau. Je me suis dit c'est le moment mais le fire.
Le petit Renoir qui grattait des couplets de barge. Fuck le délégué, dites-moi où est le mic. On dirait qu'en ma pouca, wesh, d'où M-Snipe. Ma vie, les cours, oui, 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 je m'en bats. Les cours, oui, je sais, c'est dommage. Du coup, vos surveillants sont contre moi, moi, moi. Ah,
aïe, Madame Pavoshko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui, 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 Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavoshko. C'est pour mes gars sous weed, Madame Pavoshko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Pavoshko. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit, c'est le moment, mais le fire.
Au suivant.
Bonjour.
Et quel est votre projet professionnel?
Alors, moi, en fait, mon projet professionnel, ce serait de devenir Michael Jackson.
Je comprends pas.
C'est-à-dire faire une école de Michael Jackson âge afin de devenir Michael Jackson à mon tour.
Oh non, non, mais ça n'existe pas.
C'est dans la vie faire que du.
I just kissed it to be there.
Ouais, non, 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 ça, c'est pas un projet. Non, 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 c'est pas mieux comme projet.
C'est un projet professionnel de devenir Michael Jackson, madame. Imaginez deux secondes, je vais pouvoir surprendre les gens, genre... Who's back?
Oui, oui, non, 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 c'est pas un métier. Pas d'avenir là-dedans. Au suivant.
Ou Madonna?
Non, encore moins.
L'école de Madonnage?
Oh c'est... non, ça m'étonnerait.
J'ai trop fait d'aller-retour au rectorat. Vos discours dans ma tête, j'en ai fait une vraie chorale. Toi, tes épaules dans ton bureau, tu me dis va bricoler. Et moi, au lieu de...
C'était Black M, Madame Pavoshko, toujours sur Radio Panique pour notre émission à la découverte des activités hors des bancs de l'école. Pour tous ceux qui nous rejoignent à l'instant, dans cette quatrième partie d'émission, nous allons te donner un maximum d'infos sur les AMO. Alors, Carlos, peux-tu expliquer en quoi consiste précisément, un service d'action en milieu ouvert, donc AMO, et quel est son rôle dans la communauté?
Eh bien, oui, Fabrice, donc itinéraire AMO et toutes les AMO, donc ils sont dans un cadre légal qui fait partie d'un dispositif avec des arrêtés qui vont nommer les missions. Et donc, itinéraire AMO est un service d'action en milieu ouvert qui accueille et accompagne des jeunes en difficulté, et scolaire, familial, petit délinquant, etc. Et donc, il dépend du secteur de la jeunesse. Il s'adresse à des jeunes au moins de 22 ans. Son travail s'inscrit dans le cadre d'une aide préventive destinée aux jeunes, dans leur milieu de vie et dans leur rapport à l'environnement. Donc, le service va les aider à construire des outils leur permettant de s'inscrire dans la vie sociale et de devenir des adultes responsables et autonomes.
Et en début d'émission, tu nous en as déjà un peu parlé, mais au niveau services et programmes que propose Itinéraire, qu'est-ce que vous proposez là-bas?
Oui, donc Itinéraire, donc, c'est-à-dire que toutes les AMO ont développé des outils pédagogiques. Donc Itinéraire particulièrement a développé l'outil escalade et puis on a l'outil psychomotricité relationnelle. Donc, la psychomotricité relationnelle s'adresse à des enfants de 2 ans et demi à 6 ans, évidemment accompagnés des parents. Donc, voilà, ce sont des projets construits au niveau, avec des groupes collectifs aussi. Et donc, on donne accès à la petite enfance, on peut dire, dans différentes multiplications des objectifs différents, comme le soutien à la parentalité, évidemment. Et puis, on a l'escalade. Donc, l'escalade, elle fonctionne aussi avec des multiples objectif. Donc il y a des écoles qui, à la place d'un cours de gym, viennent dans nos locaux à la salle d'escalade. Et puis, voilà, on travaille avec eux. Parfois, il y a juste une fois. Parfois, il y a des écoles qui nous demandent de pouvoir construire un module. Et donc là, on va un peu plus loin, ce qui nous permet de pouvoir suivre une classe ou un groupe et de pouvoir construire ensemble, évidemment, des comportements responsables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'escalade sans sécurité. Donc, on se sensibilise à la sécurité de soi, de l'autre et de la collectivité. Donc, il y a des techniques qui sont tout à fait liées à la discipline sportive. Et puis, l'aspect sécurité prend beaucoup de place dans la manipulation, on vous dit, des accessoires, des cordes qui font partie de l'activité. Il y a un programme technique, évidemment, qui touche aussi à la question sportive, la création des mouvements et toute cette partie d'aller plus loin et de progresser. Il y a des jeunes qui ont envie de se lancer dans des compétitions. Donc aussi, on a créé un espace justement pour les accompagner dans cette direction-là. Voilà, il n'y a toujours aucune obligation pour aucun jeune. Il y a des jeunes qui aiment bien juste pour, parce que l'activité fait du bien. Et puis, voilà, il y a différents intérêts dans cette activité. Vous devez savoir que c'est les outils pédagogiques, évidemment, et les groupes sont constitués d'une manière mixte. Évidemment, tous les jeunes qui viennent de différents horizons. On est une AMO, donc des jeunes en difficulté qui en reçoit ont aucune obligation de faire de l'escalade, mais quand ils viennent chez nous, ils se rendent compte qu'il y a cette activité-là et puis ils nous demandent de pouvoir participer. Évidemment qu'on dit oui, vous pouvez participer. Et donc après, cette participation des jeunes qui vient pour un accompagnement social éducatif se retrouve dans des groupes collectifs pour pouvoir faire une activité, mais évidemment, le lien et la relation qu'on va construire avec le jeune, ça prend une ampleur et un volume. Et puis, c'est une richesse pour nous, évidemment, de le trouver tant dans les activités collectives et puis dans l'accompagnement individuel.
Et je suppose que vous ne travaillez pas seul. Donc, au niveau du partenariat avec d'autres acteurs de la communauté, tels que les écoles, les services sociaux ou des organisations locales, comment ça se passe ?
Donc, on peut dire que la collaboration, le partenariat, pour nous, c'est un atout, hein, pour toutes les AMO. C'est-à-dire qu'on travaille en partenariat beaucoup. On développe des projets avec les écoles qui soient spécialisées primaires, secondaires, et puis avec le monde associatif, évidemment, qui ont construit des projets. Voilà, le partenariat est important pour nous. On ouvre les portes à tout le monde. On est d'un service qui est accessible. Et puis, ce qui est important, c'est de pouvoir aller vers des projets qu'on peut dire qui prend... qui prend de l'espace et qui sont importants dans un cadre de prévention.
Merci à toi. Et tu pourrais partager des exemples concrets de cas où l'intervention de ton AMO a eu un impact positif sur la vie d'un jeune ou d'une famille ?
Bah, écoute, ça c'est difficile. On n'a pas l'outil qui peut suivre pour pouvoir mesurer cet impact-là. La seule chose que nous on sait, c'est que voilà, le jeune et la famille, ils viennent chez nous, ils sont accompagnés à un moment donné parce qu'ils traversent un moment difficile. Il y a une difficulté, donc ils reçoivent un soutien. Et puis voilà, petit à petit, le jeune va disparaître, on peut dire, parce que normalement, on peut imaginer qu'il va bien. Donc, c'est un moment bien précis. Après, il n'y a pas ces moments de clôture, ces moments de se dire au revoir. Voilà, c'est difficile.
Et est-ce qu'il y a des critères spéciaux d'admission pour les jeunes et les familles qui voudraient bénéficier des services d'une AMO comme la tienne ?
Non, il y a le service est accessible à tout le monde. C'est un projet qui s'est développé autour du concept de mixité. Et donc, voilà, on essaye que tout le monde puisse participer à des activités. Tout le monde peut venir adresser une demande. Et puis, voilà, on va répondre par rapport à notre limite et par rapport à notre capacité de réponse.
Et je suppose qu'il y a une certaine confidentialité à avoir par rapport à la vie privée des jeunes et des familles que tu accompagnes?
Oui, évidemment. Hein. Donc, on fait un travail et on est protégé par le secret professionnel. Donc, c'est-à-dire que voilà, ça, on explique aux jeunes et aux familles. Et puis, à la confidentialité et toutes les informations qu'on reçoit. Et donc, il y a cet aspect confidentiel à tous les moments et dans tous les entretiens qu'on peut avoir avec le jeune ou la famille.
Merci à toi. Tu pourrais nous expliquer comment ton AMO encourage l'autonomie et la responsabilité chez les jeunes, tout en les soutenant dans leur développement?
Mais notre projet, il cible, il met un focus sur la question du mouvement. C'est pour ça qu'il y a de l'escalade, c'est pour ça qu'il y a de la psychomotricité. On a différents outils comme le séjour socio-éducatif, que ça se passe à l'étranger, donc on part loin, toujours en montagne, sac à dos. Et puis voilà, il faut monter des tentes, démonter les tentes, il faut se faire à manger. Voilà, donc on essaye de développer justement qu'est-ce que c'est l'autonomie et les confronter les jeunes d'une manière pratique. On est en train de vivre quelque chose et on les met en mouvement, de se déplacer d'un point A à un point B, mais il faut marcher et ça demande un effort physique. On va se fatiguer, on va transpirer, on va se rendre compte que notre corps aussi, à un moment donné, a besoin d'une pause. Et puis voilà, tout ça, ça nous... Le temps passé se transforme en expérience pour le jeune. Et évidemment, après, une expérience, effectivement, ça nous aide à réfléchir d'une autre manière. Quoi.
Et des beaux souvenirs, à mon avis.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des défis spécifiques auxquels ton AMO est confronté au niveau de votre quartier à Saint-Gilles
Mais nous, on est un service un peu comme les médecins généralistes. Donc, on reçoit tout le monde. Et
qu'importe la commune.
Oui, peu importe. On n'a pas de territoire. Tu as mal à la tête ou mal au poignet ou à la cheville. Mais voilà, tout le monde est bienvenu. Effectivement, on a une capacité et un travail d'orientation. Donc, parfois, effectivement, il faut réorienter vers des autres services.
D'accord.
Merci. Maintenant, oui. Le défi, effectivement, pour nous, c'est toujours de rendre accessible notre projet, qu'il soit tant dans les activités collectives, dans les séjours, et que, voilà, c'est un peu se rendre compte qu'on lutte d'une certaine manière contre la précarité qui touche un pourcentage important des familles aussi.
Est-ce que tu as un moyen de mesurer l'efficacité de ton service? Je sais bien que c'est pas toujours évident.
Mais de nouveau, on n'a pas développé encore cet outil, donc on ne sait pas très bien voilà, l'impact positif qu'il peut en avoir. Voilà, on fait évidemment d'une manière un accompagnement professionnel qui contient une demande parce qu'on travaille à la demande du jeune et pour le jeune. Et donc, effectivement, après, on se détache à partir du moment où le jeune ne vient plus chez nous. Voilà, c'est une question de droit, c'est une question de choix. Voilà, et le jeune a la liberté de le faire.
Oui, je suppose que ça dépend vraiment des cas.
Oui, effectivement. Donc, voilà, il faut respecter un peu l'histoire, les trajectoires, les parcours.
Bien sûr. Et au niveau initiative et projet futur, est-ce que vous avez des choses en tête chez Itinéraire?
Oui, il y a différents projets, comme le projet Crush, qui on travaille ces projets-là contre les violences familiales, conjugales et relationnelles. Donc c'est promouvoir les relations saines, amoureuse, et puis de promouvoir l'égalité en femmes, de promouvoir le respect en soi dans les relations. Et puis on a aussi un autre projet qui me vient en tête, c'est la démocratie à l'école, effectivement, avec un Forgeon Laken en partenariat pour pouvoir promouvoir les aspects qu'on peut imaginer d'une démocratie, comment les deux éléments importants, l'écoute et la parole, et de pouvoir libérer la parole au sein d'un projet autour des animations, et puis les s'informer des choses qui existent, des choses qui font partie des droits des jeunes. Et donc, voilà, c'est un beau projet.
Merci Carlos, merci pour toutes ces explications. Notre émission touche à sa fin, mais on a encore un petit peu de temps quand même. Alors si quelqu'un veut prendre la parole pour rajouter quelque chose, voilà, je ne sais pas si quelqu'un a un truc à rajouter ou pas. Non,
rien. Simplement, c'est qu'on a vu... Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses. C'était intéressant d'entendre les autres participants parce que c'était... Les AMO, on connaît, on a entendu, mais concrètement ici, c'était vraiment intéressant de savoir ça.
Oui, oui, effectivement, ouais, parce qu'on est en proximité et puis on continue à échanger après l'émission, évidemment. Et voilà, c'est intéressant, en tout cas. Et merci à toi, hein, Fabrice, d'avoir eu cette opportunité d'informer et être ici.
Je pense que c'est un bon mélange d'invités pour notre émission. Merci en tout cas à tous. Merci Marine, merci Carlos et merci Stéphane. Toi qui nous écoutes, si tu veux obtenir des infos supplémentaires, tape sur ton clavier www.inforjeune.eu. InforJeune, jeune avec S, je le précise. Si tu veux faire partie de notre équipe de jeunes radioactifs, n'hésite pas à venir à la radio et contacte-nous au 02 421 71 30. On se donne rendez-vous le 25 octobre pour de nouvelles aventures. On va lancer un dernier morceau. Au revoir à tous.
Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix.